farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent, à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier.
Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer.
Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année eh bien en podcast. Pourquoi en podcast? Eh bien c'est beaucoup plus facile tout simplement pour inviter des gens. Et puis bah, ce qui paraît, eh bien Noël c'est plus convivial à plusieurs. Donc bon, j'essaye. Et il se trouve que bah, ce coup-ci en fait j'ai quelqu'un qui revient. Apparemment il avait oublié quelque chose à la maison la dernière fois. Et puis bon bah comme par hasard il est revenu avec un comics. Donc bon, on s'est dit qu'on va en parler. Bonjour Marty.
Salut SN, comment tu vas?
Bah ça va toujours bien, écoute, et toi?
Ah, très bien, je suis très content de revenir ici, alors sans mes deux collègues ce coup-ci, pour que tu m'aimes un peu plus que je t'ai ramené un petit cadeau en plus.
Oui, j'ai vu. Ah là là.
Comme ça... vous voyez, la confiance règne à Comics Office, hein, on se fait des coups dans le dos et tout.
C'est ça. Et donc du coup, bah oui, bah je te laisse te présenter un petit peu au cas où quelqu'un n'aurait pas écouté eh bien, tout simplement l'épisode précédent où tu apparais.
Eh bien, si vous n'avez pas écouté le premier épisode où tu nous as invités, déjà, c'est pas bien. Vous éteignez votre écoute là et vous allez tout de suite lancer cet épisode en question. Donc, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Marty. Je fais partie du site comicsoffice.com, un site où on fait principalement du podcast sur les comics, évidemment.
C'est ça. Et bah, pour une plus longue présentation, je vous renvoie donc à l'épisode de ce calendrier. Et oui, voilà. Et donc, on s'est mis un peu d'accord sur un titre. En fait, tu voulais beaucoup, beaucoup parler de ce titre. Et c'est pour ça que tu reviens, en fait, tout simplement. Un titre, eh bien, tout simplement, qui parle de ce bon vieux Nick.
Eh oui, ce bon vieux Nicolas. Mais alors, pas Saint-Nicolas, ce personnage qui aurait inspiré le Père Noël. Mm-hmm. Non, 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 bah... Le grand Nick de l'univers Marvel, c'est bien sûr Nick Fury,
le plus
grand des espions slash militaires de l'univers Marvel.
Oh, je pense quand même qu'il est aujourd'hui beaucoup plus connu pour son côté espion que pour son côté militaire.
Oui, mais ça reste un colonel.
Ah, tout à fait.
On l'oublie pas non plus.
Tout à fait. Bah, il a été sergent dans sa jeunesse.
Exactement, oui, il a été sergent. Et justement, là, on va parler du Nick Fury des années 60. Et mm-hmm. à l'époque, c'est un peu une exception dans l'univers Marvel, puisque à ce moment-là, là, on va être à la fin des années 60, c'est le seul personnage qui a deux titres à son nom. Alors déjà, Je pense que c'est le premier qui a eu deux titres où son nom apparaissait. C'était pas le premier à apparaître dans deux titres. On a eu d'abord la Torche Humaine qui apparaissait dans Les Quatre Fantastiques et qui avait ses propres segments à lui dans Strange Tales. D'ailleurs, mm-hmm. Nick Fury va lui prendre sa place. Je crois que c'est sa place à lui qu'il va prendre par la suite. Je crois, oui. Il y a des persos qui apparaîtront dans les Avengers tout en apparaissant dans leur titre solo. Mais
que
lui, c'est vraiment
Iron Man ou que ce soit Captain America.
Exactement. Et encore là, à la fin des années 60, alors ils sont peut-être déjà revenus, mais on a eu toute une période où d'ailleurs, eux n'étaient plus dans Iron Man, Thor et tout, n'étaient plus dans les Avengers. Alors mm-hmm. que Nick Fury, lui, a eu vraiment, il a d'abord eu son titre Sergent Fury, qui rappelait ses aventures durant la Seconde Guerre mondiale. Puis on a eu en parallèle son titre d'espionnage, alors d'abord dans Strange Tales, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis dans la série Nick Fury, Agent du Shield. Et donc là, on va être en 69, et donc c'est le seul personnage à ce moment-là qui a deux titres solo à lui tout seul, avec son nom qui apparaît dans le titre de la série, tout simplement.
C'est ça. Donc Nick Fury, qui à la base était censé être un personnage de militaire, tout simplement, et qui en fait, eh bien, comme la mode, c'est James Bond, c'est aussi The Man from Uncle, ou des
séries... Les agents très spéciaux.
Voilà. Oui, je suis désolé, je dis toujours le nom américain.
Non, mais... Il y a Danger Man ou ce genre de choses, un chapeau melon et bottes de cuir, c'est vraiment la mode à l'époque.
C'est ça. À l'époque, même Doctor Who est devenu un show à moitié d'espionnage, pour tout vous dire. Donc on est vraiment là-dessus, c'est une mode très très forte. Et donc du coup, ce vieux sergent militaire est remis au goût du jour un peu en tant qu'un espion. Donc on suit sa vie en fait, de militaire dans sa jeunesse, et donc aujourd'hui, c'est un espion. Et donc on est au numéro 10... finalement de ce titre, Nick Fury, agent du SHIELD.
Oui, alors le numéro 10, là il faut savoir qu'on est trois numéros après la fin du Alors, trois, oui, je crois qu'on est trois numéros
Oui, c'est
après la
ça.
fin du run de Jim Steranko, qui encore aujourd'hui est considéré comme un des plus grands runs, toutes séries confondues. Hein, c'est quand même le sous Steranko, Nick Fury, ben, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau de la composition des pages, c'est quelque chose de révolutionnaire,
Ah
très
oui.
inspiré par James Bond, par l'esthétique des années 60. Et comme on va le voir d'ailleurs, les suiveurs, alors là, on a. Maintenant, on a Gary Friedrich au scénario et le dessinateur, c'est Frank Springer qui co-scénarise aussi. Et il y a un certain Barry Smith qui donne des coups de main aussi au dessin de ce numéro avec un ancrage de Johnny Craig. Et ben, on est un peu dans l'émulation de ce que faisait
Ah
Steranko. Il va
oui.
vraiment laisser sa trace sur le titre. Et là, on est dans de la copie honnête, j'ai envie de dire.
Ah oui, franchement, oui, ça va. C'est pas du décalque, ça tente des choses, c'est un peu moins marquant, mais ouais, ça marche.
Oui, c'est
Disons que
graphiquement c'est assez solide, oui.
tu vois les ficelles en fait, c'est ça le problème,
Oui.
là où tu voyais pas les ficelles avant.
Ouais, et ce numéro-là, le scénario est pas mal, mais genre dans le numéro suivant, ça devient un peu plus grotesque, hein. On tombe un peu de nouveau dans des scénarios tirés par les cheveux, qui rappellent des trucs comme quand Spider-Man avait empêché des aliens, par exemple, de trafiquer les radios de tous les dirigeants du monde. On est un peu dans ce genre de scénario-là, quoi. Et puis clairement, là, là, on est dans un des. Je dirais le numéro suivant, le 11, c'est le dernier bon graphiquement, puisqu'après, on aura un numéro par Barry Smith, puis on aura Herb Trimpe, où les deux feront du sous-Kirby, du sous-sous-Kirby, avec un peu de sous-Steranko, et ce graphiquement, ça a vraiment tombé, alors que là, on a un épisode qui se tient bien encore, je trouve.
C'est ça, bah du coup je propose qu'on commence la narration, si tu le veux bien.
Oui, parce que donc voilà, c'est bien gentil de parler à l'oral de dessin, mais vous, ce qui vous intéresse, chers auditeurs, c'est l'histoire.
Eh oui.
Et donc, comme vous vous en doutez, c'est un épisode qui prend place à l'époque de Noël.
Ah bon?
C'est d'ailleurs dans le titre, hein, c'était la nuit avant Noël.
C'est ça.
Et
Très très joli titre d'ailleurs. Moi j'ai un petit côté Will Eisner's The Spirit avec forcément ces lettres qui ont qui représentent le décor.
parce que ouais, la première page, c'est le titre qui est écrit en grand avec Nick Fury qui marche devant. Enfin, c'est. Je vous invite à chercher sur Internet si vous ne
Ah non,
l'avez
mais
pas.
de toute façon, moi je vais le mettre au montage.
Ah bah oui, bah alors c'est parfait. Et on l'a pas dit. Bon, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Mais vous pouvez retrouver cet épisode dans l'intégrale numéro 3 de Nick Fury.
Tout à fait.
Il avait déjà été paru il y a fort longtemps dans le
Dans,
magazine Inattendu,
c'est
hein.
ça, le numéro 15 de l'inattendu. Vous
Voilà.
pouvez le retrouver aux côtés de Black Panther.
Un très
Enfin,
bon titre à l'époque aussi, hein, Black
oui.
Panther.
Donc
C'est vraiment en plus.
Black Panther par Kirby, du coup, voilà.
Ah, très belle période.
C'est ça. En fait, c'est la saga en quatre parties qui était sur la recherche de l'immortalité, tout ça.
D'accord, ouais. Et Nick Fury comme Black Panther, c'est un titre qui dénotait, vu qu'à l'époque, on est quand même aussi sur le titre peut-être le moins super-héroïque de Marvel avec Nick Fury, même
Bah,
si elle est super vilain.
je pense que c'est pour ça que c'est dans l'inattendu, tout
Ouais.
simplement.
Sûrement, oui. Et juste pour juste encore terminer sur la partie VF, dans l'intégrale, ils ont adapté hein, le titre, le Night a été transformé en nuit.
Oh,
Ils ont fait un.
j'aime quand ça fait ça.
Bah oui, alors on remarque, ne serait-ce qu'aux couleurs, on remarque que c'est une page qui a été retravaillée par rapport aux pages suivantes, mais elle est vraiment superbe. Hein, je vous invite, j'ai envie limite de me l'imprimer, de l'accrocher hein, pour la déco de Noël.
Bah écoute, c'est tant mieux, et donc du coup on commence eh bien le 24 décembre 1968. Alors c'est rigolo parce que le titre il a été publié à peu près dans ces eaux-là aussi. On est vraiment là, voilà. Puisque la date en fait sur la couverture c'est mars 1969, donc ce qui veut dire que tu enlèves 3 mois pour la date où c'est imprimé, donc 1968, tu te retrouves avec cette date-là où ça se retrouve vraiment sur les étals.
Ouais, ils ont bien joué leur coup, hein. En même temps, on va les mieux sortir ça à peu près à l'époque de Noël.
Ah oui, mais bon.
Et donc on retrouve hein, ce brave Nick qui, après une mission, rentre chez lui. Il veut aller se poser parce que c'est Noël, hein. Il a le droit, comme tout le monde, de prendre quand même un jour de repos
Ah oui.
entre deux démontages de plans de génie du mal. Et en rentrant chez lui, il tombe sur une bonne surprise. Quelqu'un l'attend.
Non, 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 non,
Et
il tombe pas d'abord là-dessus. D'abord,
ah
il
non,
tombe
d'abord oui, je vais trop.
sur des gens dans la rue, en fait, une femme qui se fait apparemment attaquer par deux hommes.
Oui, je vais un peu trop vite, oui. En effet, il fait sa bonne action de Noël, il
C'est ça.
sauve d'abord une femme de deux hommes, hein, enfin, qui pensait sauver une femme de deux hommes, puisqu'il se rend compte que c'est une arnaque pour agresser des gens et leur soutirer l'argent.
C'est ça, puisqu'en fait, la femme est complice pour attirer, en fait, tout simplement des bonnes âmes, et donc aussi attaquer. Et bon, bah forcément, il s'attendait pas à tomber sur un espion de cette trempe-là, donc du coup, il évite le coup de feu touche un des complices, enfin bref, tout le monde se fait un peu tabasser.
Voilà. Et après avoir mis des nions, ben Nick Fury se dit qu'il va rentrer chez lui se poser. Et là, quelqu'un l'attend.
C'est ça.
Alors, non pas un ennemi, mais une charmante compagnie. Et non pas sa chère Val, mais Laura Brown, un personnage qui gravite dans l'univers de Nick Fury à l'époque.
C'est ça.
C'est un de ses love interests qu'on a retrouvé dans l'épisode précédent, puisqu'en fait, cet épisode-là, le 10, il s'inscrit un peu dans une, j'ai envie de dire, une trilogie un peu... Oui, une trilogie du hatemonger, vu que le méchant des trois épisodes est le maître de la haine, sans que les épisodes soient forcément vraiment liés ensemble. Hein. Dans cet épisode-là, Nick Fury se rappelle que le mois d'avant, il a déjà combattu le maître de la haine, mais il n'y a pas plus de lien que ça entre les deux scénarios, finalement.
C'est ça. Et Laura Brown, c'est aussi un personnage parfois un peu ambigu, puisque bah, c'est quand même la fille eh bien, du leader d'Hydra, tout simplement.
Voilà, on est dans, ben voilà, on est un peu dans les relations où le héros fricote avec
James Bond.
Voilà, à la James Bond où on a pareil Iron Man avec Madame Mask par exemple. Oui. Si ça vous parle plus, voilà, on est un peu dans ce genre de relation là, j'ai l'impression.
Mm-mm, tout à fait. Et donc du coup, il arrive à. Au début, elle lui fait un peu la gueule parce qu'il a l'impression qu'il est déçu que ce soit elle et pas Val. Et puis bon, il arrive à rattraper un peu le coup, on les voit préparer Noël, on allume le feu. Nick Fury est là tranquille en train de se préparer un petit daiquiri. Oh, ça a l'air cool.
Oui.
Il fait une petite lumière tamisée. T'as une petite musique qui se met. Non, franchement, ça a l'air d'être parti pour une bonne soirée. Et puis
oui,
là,
oui.
Forcément, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on est parti pour une bonne soirée?
Eh ben, le téléphone sonne.
C'est ça.
Et au bout, personne ne pleure, mais quelqu'un appelle Nick Fury à la rescousse, puisque le maître de la haine a décidé de frapper depuis sa base géante qui orbite autour de la Terre. Voilà, oui. Dans l'épisode d'avant, c'était sa base sur une île qui explosait. Là, on se rend compte qu'il a un satellite gigantesque. Alors, moi, ça me fait toujours rire, mais on se dit toujours, mais où est-ce qu'il trouve les moyens, le matériel et les gens pour fabriquer. Surtout que c'est pas comme si c'était le grand méchant de l'univers Marvel. Chaque méchant a une base géante qui orbite dans le ciel, quoi. Mm-hmm. Ça se demandait déjà comment ils font pas pour se rentrer les uns dans les autres.
Ah bah,
et où est-ce que la main d'œuvre pour faire ça, bon.
C'est, ils discutent entre eux, tu sais, ils ont un calendrier, un agenda précis. Toi, tu peux tenter ce coup-ci, tac. Si jamais ça marche pas, on pourra essayer de te recaser à peu près à ce moment-là, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a toute une mécanique de précision chez les vilains.
Oui, c'est pas possible
autrement.
Je pense qu'il se file le nom des prestataires et tout auxquels ils peuvent faire appel. Et donc Nick Fury, d'abord se rend. Évidemment, comme on est chez Nick Fury, on a une scène où on le voit sur sa voiture volante se rendre à la base.
Je voudrais juste en fait attirer l'attention sur une petite phrase qui va revenir en fait à la toute fin. C'est-à-dire qu'en fait au début, quand il répond au téléphone, justement, il est là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Me dites pas que vous avez chopé un ovni qui est piloté par Uiren.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Comme quoi, je lis pas assez mes notes parce que je l'avais relevé aussi. Oui. Donc déjà, on a alors pour faire un peu utiliser un peu des gros mots, des gros mots anglais, on a du foreshadowing. Hein, donc,
oui.
On nous prépare déjà. On a une préparation paiement. On a déjà une petite insinuation comme quoi le Père Noël pourrait faire son apparition. On verra ce qu'il en est à la fin.
Ah oui, on verra. Et donc, comme tu le disais, eh bien, Nick Fury part.
Il part
d'ailleurs de jolie façon.
Oui, on a une superbe page entière où on voit le vaisseau de Nick Fury qui part seul, hein, parce que c'est lui le patron, hein, puis les autres gens ont droit quand même de rester Noël à la maison.
Le vaisseau de Nick Fury qui, on le rappelle, est une voiture de collection.
Oui.
Ça m'a toujours fait rire et j'ai toujours trouvé ça incroyable.
Oui. Et alors là, quand Nick Fury ensuite se rend dans la base, on a une composition d'une page où les cases sont un peu chamboulées et tout. On voit que Steranko a laissé des traces et c'est tant mieux.
Ah oui,
hein.
Oui. Oui.
On est dans l'héritage. Et c'est fort bien fait. Là, on est vraiment dans la bonne imitation, j'ai envie de dire. Et donc, bah, il arrive dans la base, hein. Heureusement que quelque part, que sur un mur, il y avait une porte où il y avait marqué SAS dessus, pour
Ah
que
oui,
si quelqu'un est perdu.
sur la base du méchant, du coup.
Oui, sur la base du méchant, oui, il pense quand même à marquer SAS à l'extérieur si quelqu'un, je sais pas, tombe par la fenêtre et se retrouve dehors. Je sais pas
C'est ça.
exactement quel était le plan des méchants. Et donc,
Et
il fait une entrée à la.
je sais pas non plus quel était exactement le plan de Fury qui part tout seul dans l'espace en sachant
Oui.
pas comment rentrer avec juste 5 minutes de réserve d'oxygène.
Oui, alors ça je l'ai même pas précisé, tellement on a l'habitude de ce genre d'absurdité, mais oui, il y a de ça aussi, hein. Et il fait une entrée à la Belmondo, hein, Big Boom Badaboom.
C'est
Il
ça.
rentre, il met des nions, parce que ben, c'est Nick Fury, on ne lui fait pas à lui. Et tout seul, il compte donc démanteler cette base spatiale.
Oui,
Et.
c'est cette base spatiale qui donc compte lancer une bombe un petit peu bactériologique, et bien tout simplement bah, pour détruire une partie de l'humanité.
Voilà, ouais. Alors là, j'étais un peu surpris. Je me dis, tiens, il parlait déjà de bombes bactériologiques à l'époque. Est-ce
Bah
que
ouais.
c'est comme quoi, enfin, c'est comme quoi ce récit a encore une résonance aujourd'hui, vu que la crainte de ce type d'attaque existe toujours, hein. Alors, bon, bah, joyeux Noël tout le monde. Hein. J'espère que vous n'écoutez pas cet épisode le jour des fêtes. Et sur une grande splash page, on découvre que le méchant, c'est le maître de la haine, qu'on pensait pourtant décédé dans l'épisode d'avant. Alors, le maître de la haine, si vous connaissez pas, c'est un concept, hein.
Ah oui, non,
C'est.
c'est.
Waouh.
C'est un clone d'un vieux dictateur à moustache des années 40.
Voilà, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il meurt et quand il revient, on ne sait pas si c'est le premier maître de la haine ou pas qui est de retour. Et il a un look. Il a un look. C'est un peu un mélange d'un look de bourreau et du Ku Klux Klan,
Oui.
avec chapeau à pointe, une espèce de cotte de maille. Voilà, il a un look. Ses habits sont mauves, bleus et verts. Il a un grand H sur le torse.
Pour dire
Alors,
haine.
voilà, hate, haine,
Et
ou
puis
alors Hitler
aussi,
aussi.
bah
Hein.
oui, voilà, c'est ça, si jamais éventuellement le monsieur à moustache.
Voilà, ouais, là sur la page, on peut voir qu'il a un magnifique bâton avec un H tout au bout. Enfin, là, il a la panoplie complète. Hein. Et donc, il veut lancer ce plan. Fury se fait attraper.
Oui.
Et alors là aussi, le plan devient tordu parce qu'ils veulent envoyer la bombe et ils mettent Fury dans une capsule qui est accrochée à la bombe.
C'est ça. En fait, du coup, ils se sont dit, bon, bah, comme t'es là, de toute façon, on va envoyer la bombe, on te met dessus comme ça, on se débarrasse de toi en même temps. Et donc, ouais, il fait tout un speech comme ça sur la supériorité de ma race. Alors, on note quand même qu'il veut détruire les personnes à la peau noire, à la peau jaune et à la peau blanche.
Ouais,
Donc,
alors
j'imagine
déjà.
que c'est les peaux rouges pour lesquelles il se bat, bizarrement.
Alors, comme il n'arrête pas de parler de leur race, et alors je sais
Oui.
plus si c'est dans cet épisode-là ou dans le précédent ou dans le suivant où il parle ouvertement de la race germanique, mais en gros,
Oui.
il veut supprimer les races blanches que lui juge inférieures à la sienne. Bon, alors, je sais pas comment ils ont bidouillé leur virus pour que ça fonctionne, hein, mais.
Ah oui, bah oui, là je sais pas trop où ils vont tirer là pour le coup.
Oui. Bah, surtout que leur but, c'est avant tout, en fait, l'idée, c'est que cette bombe-là, elle a une courte portée. Elle va, enfin, courte portée, elle va décimer New York. On nous rappelle d'ailleurs au début de l'épisode qu'il y a 8 millions d'habitants à New York. C'est pas pour rien qu'on nous met cette petite info.
Oui.
Je dis ça pour souligner que quand même, l'écriture reste bien ficelée, hein. On a des petites infos comme ça qui sont distillées au début pour vraiment accentuer le danger qui arrive ensuite.
Tout à fait.
Et l'idée, c'est qu'une fois cette attaque effectuée, les pays visiblement vont se lancer des ogives sur la tête. Alors je ne sais pas pourquoi. Sans doute qu'ils comptent faire porter le chapeau
Oui,
aux
c'est
Russes ou
ça,
à
oui,
quelqu'un d'autre.
La guerre froide commence vraiment à bien prendre dans les esprits à ce moment-là, donc forcément, enfin,
Oui, on est.
et surtout la menace que du coup maintenant plusieurs puissances ont vraiment bah, la bombe, hein.
Oui,
Là,
on est en.
on est en plein dedans.
On est en plein dans l'équilibre de la terreur, hein, cette crainte que si quelqu'un lance une bombe, ben, l'autre va répliquer et tout le monde va être perdant.
C'est ça.
Alors on en a d'ailleurs parlé récemment sur Comics Office dans une émission qu'on a enregistrée avec ton collègue des GG History Thomas,
Oui.
où on a pris le prétexte de Superman Red Son pour parler de la guerre froide dans les comics. Hein, donc je vous invite à écouter ça.
Oui.
On parle pas trop de Nick Fury parce qu'on peut pas tout parler de tout. Mais cet épisode clairement rentre dedans. Et là, on se dit aussi le plan est mal ficelé parce que, étant donné que le Shield sait que sa base et autour de et au, en train de tourner autour de la Terre et ils l'observent, ils vont très bien voir que la bombe vient de chez lui. Donc tous les pays, c'est pas entre eux qui vont s'envoyer des bombes, mais c'est sur sa base à lui.
Oui, mais
Comme
bon,
quoi.
il va quand même tuer 8 millions de personnes et Nick
Oui,
Fury.
voilà.
Donc,
Il se fait... c'est... En fait,
il est
il se
quand
fait un
même
cadeau de Noël.
content, hein. C'est
Oui,
ça.
bah, il se fait un petit cadeau de Noël, hein. Et puis bon, pourquoi tuer directement Nick Fury quand on peut le mettre dans une navette accrochée à la bombe, et une navette où visiblement, on va le voir
Écoute.
après, il y a une fonction éjection, et c'est
Voilà.
vraiment
Bah.
le plan habituel des super-vilains
C'est ça.
qui en fait se saborde tout seul de base.
Bah, en fait, si j'ai bien compris, en fait, ça, c'est un espèce de capsule de sauvetage, en fait, tout simplement de base qu'ils ont juste accroché.
Voilà.
Tout simplement pour que Nick Fury puisse assister à puissant à l'explosion, en fait. Et je pense que l'idée, quelque part, c'est qu'en fait, le méchant pense que Nick Fury est tellement noble que tant qu'il est sur la bombe et tout ça, en fait, il essaiera pas juste de sauver sa peau, en fait. Tu vois?
Oui, il essaiera de. Et puis symboliquement, ben, il se dit, tu vas mourir avec
C'est
les
ça.
gens que tu as essayé de sauver, quoi. Hein.
C'est ça.
Et puis bon, ben, vu que ils sont débrouillards, ces Allemands, ils arrivent à bidouiller vite fait cette capsule
C'est ça.
sur la bombe. Et
Et ils sont pas non plus. Enfin, certes, ils font des efforts et tout ça, mais ils envoient quand même deux avions pour surveiller donc justement la progression de la bombe et surtout que Nick Fury va pas faire le con.
voilà, ouais. Ils sont quand même, finalement, c'est pas les moitiés d'idiots non plus, c'est méchant du jour, puisqu'ils se disent, ça fait 20 fois que ce genre de plan échoue,
C'est
on va
ça.
peut-être mettre une petite sécurité, hein, au cas où. Et heureusement pour Nick,
Ah
un
oui.
petit grain de sable va s'immiscer dans la neige qui tombe à Noël, et va bloquer les rouages de cette machinerie, puisque quelque chose, alors on ne
Oui.
sait pas quoi, on voit juste un faisceau, hein,
C'est
quelque
ça.
chose fait dévier les avions qui suivent Nick Fury.
Ah, même
Et
carrément l'effet. Il y en a un qui va s'écraser sur la bombe.
voilà, il y en a un qui s'écrase, il y en a un qui dévie, voilà exactement. Et Nick Fury, lui, arrive à s'éjecter à temps. Et donc, heureusement pour lui, sans doute que la bombe devait déjà être assez près de New York, puisqu'il tombe dans la baie de New York, dans la baie de l'Hudson, il me semble.
C'est ça. Et juste aussi pour tout ce qui est en fait dans la bombe et les bactéries en fait, ils arrivent en fait ils sont dans la très haute atmosphère, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas assez d'oxygène pour que les bactéries vraiment en fait
Voilà,
puissent
ouais.
survivre en fait.
Oui, voilà, ouais. Et visiblement, Nick Fury était pile dans le bon angle pour quand même tomber près des côtes de New York,
Oui.
pile à côté d'un bateau.
Ouais, un bateau qui a l'air du Shield et qui a l'air de et qui justement essaye de le suivre et qui justement dit très clairement que s'il tombe dans l'eau, il va pas tenir plus de quelques secondes, il faut vraiment que je le suive.
Voilà, donc mine de rien, même si, comme d'habitude, ah bah comme par hasard, ça tombe bien pour le héros, on essaie quand même de le justifier dans les
Oui,
dialogues.
c'est
C'est un
ça.
peu bancal, mais au moins c'est l'intention qui compte. Hein. Et puis bon, allez, c'est Noël, on va pas non plus être trop critique.
C'est ça.
Et donc, ce brave Nick est heureux, il a réussi à déjouer les plans du hatemonger. Il rentre chez lui où la brave Laura, bah, visiblement, a terminé le daiquiri,
Ah oui, je
parce
pense,
que
parce qu'elle a, elle dort bien.
elle dort bien. Et surtout, si on regarde bien sur la table basse, on peut voir qu'il y a un verre à cocktail. Et on peut peut-être deviner quelque chose de côté. Ça doit être le shaker de
Oui,
côté.
je pense.
Donc, au bout d'un moment, bah, elle a eu soif et bah, elle a attendu Nick longtemps, hein, donc
C'est
il a bien
ça.
fallu qu'elle s'occupe.
Et en même temps, elle le dit elle-même, en fait, elle était aussi assez inquiète, hein, puisqu'il ne
Oui.
revenait pas.
Voilà, ouais. Mais heureusement, tout est sauf, et puis tous les deux peuvent regarder le soleil se lever. Nick se dit, bon, allez, ça vaut le coup de la réveiller quand même.
Oui.
Et ils sont heureux de constater que le monde libre est sauf. Mais Nick se demande quand même, hein, je le cite, hein, mais je me demande encore ce qui a pu pousser le pilote du maître de la haine à me heurter. Est-ce que... Non, c'est impossible. Et pourtant, qui sait? Le Père Noël existe peut-être bien.
C'est ça. Et c'est la fin.
Voilà.
Et oui, on ne saura pas. On ne saura pas tout simplement ce qui a touché,
Oui.
ce qu'était cet ovni. Mais comme on n'a pas d'autre explication qui nous est possiblement donnée, donc avec cette petite phrase que j'ai rappelée, possiblement d'un ovni donc qui pourrait être le traîneau du Père Noël, le fait que ce soit bien rappelé, que ce soit le 25 décembre à chaque fois, que le vilain insiste vraiment que le 25 décembre va prendre une nouvelle signification et tout ça, on n'a pas d'autre solution en fait.
Ah oui, et comme quoi on se dit, bah, un miracle de Noël, hein, le Père Noël tue des néo-nazis à Noël. Bah, voilà.
Que
Alors, on a.
demander de plus?
Oui, que demander de plus? Bah, alors, après, on n'a pas d'autre solution. Bah, Ou alors on ne nous en propose pas d'autres. On peut se dire
Oui.
que c'est un météore, que c'est un débris de
Ah oui,
satellite.
on...
On est dans l'univers Marvel, il y a des ovnis, il y a des super-héros qui rentrent et qui sortent de la stratosphère déjà à l'époque. En fait, il y a plein, plein d'explications possibles. C'est juste que bon, on nous force un peu la main.
C'est ça, tu penses que c'est le surfeur qui est passé vite fait, tu penses...
Voilà, oui. Ben voilà,
Ouais.
comme d'habitude, un rasoir d'eau comme tout ça, ben, la solution la plus logique est peut-être la bonne. Il y a 10 solutions logiques qui fonctionnent, mais allez, c'est peut-être le Père Noël qui a voulu se faire un petit plaisir à Noël et abattre un nazi aussi, qui sait.
Ah bah oui, bah écoute, c'est pas voilà, c'est pas toujours les mêmes qu'on le droit de s'amuser, le Père Noël
Chacun son
aussi.
tour.
Voilà.
Et puis, le Père Noël est rouge et il est très généreux et il pense à tout le monde. Donc, qui sait?
C'est le grand Schtroumpf
Peut-être.
en fait.
C'est le grand Schtroumpf, ou peut-être le Père Noël est-il soviétique, et rappelons que les soviétiques détestaient aussi les nazis.
Ah
C'est
bah
autant
oui.
grâce à eux qu'aux Américains que les Allemands étaient battus. Donc c'est de bonne guerre qu'ils mettent la main à la pâte aussi dans ce cas-là.
C'est ça. Bah en tout cas, bah voilà, bah c'est la fin eh bien, de ce petit numéro qui, alors, est pas extraordinaire, mais il est sympathique, franchement.
Il est sympathique et puis voilà, il est assez joliment dessiné. C'est un bon épisode de plaisance, j'ai envie de dire. C'est
Oui,
pour passer
voilà.
le temps.
Mais pour le coup, même les épisodes d'avant de Friedrich étaient déjà un peu comme ça. Donc voilà, le fait qu'il soit de Noël, en fait, ne baisse absolument pas la qualité de la série, pour le coup.
Non.
Et j'aime bien ça.
Non. Et puis je vous invite aussi à lire le suivant, alors dont le scénario est un peu plus grotesque, mais qui a quelques idées de mise en page. Vous verrez, il joue beaucoup sur l'ambiance 60s, avec les premières pages qui sont censées reprendre un album de disques sur lequel on va mettre les crédits de l'épisode. C'est
Oui.
assez ingénieusement trouvé. C'est
Mais
une petite
oui.
curiosité qui mérite d'être découverte, au moins ce début de run de Friedrich et de Springer.
Ouais, la fin vaut peut-être moins le coup, en effet.
Oui.
Et donc voilà, je sais pas si... Enfin, du coup, on en a parlé un tout petit peu juste avant qu'on enregistre, mais il faut savoir qu'en fait, cet épisode, il est assez particulier dans l'univers Marvel, puisque c'est la première fois qu'on a dans l'univers Marvel en fait qu'on connaît, donc l'univers super-héroïque et tout ça, qu'on a une vraie histoire de Noël. Tout simplement, pas une histoire où juste Noël est mentionné, juste ça se passe là, mais où Noël est tout simplement l'histoire et où ça a une vraie incidence et où même possiblement on nous fait parler du Père Noël.
Oui, surtout que le Père Noël existe dans l'univers Marvel, il faut le
Oui.
savoir, hein. Il va apparaître alors dans des titres souvent délirants comme le She-Hulk de Byrne,
Oh,
ou... mais
il y
aussi
a les X-Men aussi.
et les X-Men, oui, où on nous fait comprendre que c'est peut-être le mutant le plus puissant de l'humanité.
C'est
Et
ça. Moi,
alors c'est assez intéressant.
je veux vraiment le revoir là avec Hickman.
Mais non, mais enfin, c'est un vrai personnage qui apparaît. Alors, d'ailleurs, c'est même un peu compliqué parce qu'il a plusieurs origines possibles.
Oui.
Il y a une origine comme quoi il viendrait peut-être d'Odin, une autre où c'est Saint-Nicolas. Alors, les auteurs s'inspirent des vraies hypothèses des historiens et des sociologues en fait, hein, où l'origine du Père Noël en elle-même, c'est un peu un mélange.
Ah
J'ai envie
bah oui.
d'employer un terme un peu technique, sympa, syncrétisme de plusieurs personnages historiques ou culturels. Voilà. Il a de nombreuses influences. Il y a le mythe comme quoi il est devenu rouge à cause de Coca-Cola, alors que ce n'est même pas vrai en fait. Mais voilà, c'est un personnage qui a une origine très complexe sur laquelle tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et on joue sur ça aussi dans l'univers Marvel.
Oui. C'est plus que quelque chose juste de religieux. En tout cas, maintenant, Noël,
Ouais,
on a
sûr.
énormément de choses. Ça a rassemblé énormément de choses. Et
Oui.
c'est pour ça que moi, j'aime bien, en tout cas.
Ouais, par contre, je me demande dans l'univers Marvel si le Père Noël existe. Il sert à quoi puisque c'est les parents qui achètent les cadeaux?
Et oui, bah, il est peut-être là justement pour punir les gens et donc taper des...
En fait, il est là pour tuer les gens qui veulent attaquer à Noël. Parce que dans l'épisode de Nick Fury, on nous dit bien, mais qui voudrait attaquer à Noël? Il me semble qu'il y a une phrase comme ça à un moment
Oui, c'est
donné.
ça,
Donc,
oui. Que c'est ça,
ouais,
que c'est le jour où justement, apparemment, tout le monde, au moins pour une journée, en fait, le monde semble être dénué de mal.
Oui, voilà. J'imagine bien le docteur Fatalis devant sa cheminée, accrocher ses chaussettes en côte de maille
Oui. Mais
sur son sapin.
il y a une espèce de semi-trilogie sur Fatalis et Noël
Ah.
que j'aime beaucoup. Je l'avais fait lors du tout premier calendrier, donc bon, ça pique un petit peu au niveau des oreilles, mais elle était vachement drôle.
D'accord, bah, j'irai écouter ça alors, ça me dit rien. Et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement ils choisissent un clone d'Adolf Hitler, parce que qui d'autre que
Oui.
Adolf Hitler pourrait attaquer à Noël finalement?
C'est ça. Et donc, je rebondis sur mon histoire de premier truc sur Noël. En fait, d'après la légende, si jamais en fait il n'y en a pas tant que ça avant, c'est parce que Stanley n'aimait pas Noël, en fait, ou n'aimait pas en fait, il trouvait que ça rendait le tout gamin, en fait. Et
D'accord,
donc
ouais.
il préférait laisser ça à la concurrence, et notamment à la distinguée concurrence, on va dire. Et c'est pour ça que même avant, on en a très très peu. On a quelques occurrences dans des histoires, par exemple, Strange Tales numéro 34, donc qui date de
Ouais.
1955, enfin, dans des histoires anthologiques. Mais c'est pour ça qu'on a très très peu de Noël. Et là, on est en 1900, donc fin 68, début 69. C'est le moment où Stan Lee, en fait, commence un peu à relâcher son contrôle, tout simplement, sur l'univers Marvel. Avant, il regarde un peu tout, il est un peu partout. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire que sur plein de titres où il a participé, il est finalement aussi tout aussi important que le dessinateur. Parce que justement, le dessinateur apportait énormément de choses par rapport au rôle habituel d'un scénariste, mais c'est parce qu'il mettait la main dans le cambouis dans l'ensemble de l'univers Marvel. Et justement, là, c'est le moment où il commence un peu à laisser tout ça. Il va bientôt. 2 ans après, il va vraiment s'en aller. Il va laisser la main à donc Roy Thomas.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'en fait on va commencer à avoir plus d'histoires de Noël. Et c'est pour ça qu'on va commencer à ensuite dans les années 70 à avoir la première édition en fait d'un magazine Marvel dédié à Noël, le Marvel Holiday Grab Bag,
Ouais.
qui en fait contenir les rééditions des quelques petites histoires qui ont été sorties à Noël, donc celui-ci, un épisode de Luke Cage et quelques autres histoires comme ça.
Et dont le Amazing Spider-Man 24 par Lee et
C'est
Steve
ça.
Ditko aussi.
C'est ça. Mais c'est
Mais
te
où
dire.
Noël, ouais, t'es vraiment juste dans le décor,
C'est
quoi.
ça, mais c'est te dire justement à quel point il n'y avait pas d'histoire de Noël. Et à quel point
Oui.
Lee ne voulait pas juste mettre Noël. On met Noël parce que ça fait réaliste et parce que ça existe et parce que c'est un truc du monde. Mais ça n'a pas d'incidence dans l'histoire.
Oui. Bah, d'ailleurs, ce côté aussi où Noël est juste enfant, ça existe par la suite. Hein. Byrne dans
Oui.
CFF, il me semble qu'il y a un épisode qui se passe à Noël. Les X-Men, quand ils vont à New York et qu'ils se font attaquer par les satellites au début du run de les Sentinelles au début du run de Claremont, je me
Oui.
demande si ça se passe pas dans la période de Noël aussi.
Si, oui, il y a des trucs comme ça. Mais en tout cas, justement, avec Stanley, c'était une règle. C'est ça
D'accord.
vraiment qui est important finalement. Et
Ok,
que
et alors
justement,
avant.
c'est le début où cette règle commence à vraiment s'effilocher, quoi.
Ok, alors j'ai une question. Peut-être que je te prends au dépourvu, mais tu parlais de la distinguée concurrence. Tu avais l'air de dire que chez eux, par contre, on avait Noël qui apparaissait régulièrement dans les comics.
Ah, très très régulièrement, oui. La première apparition du Père Noël chez DC, c'est dans les années 40.
D'accord, ok.
Non, non,
Ouais.
c'est Batman et Superman l'ont croisé je sais pas combien de fois.
Ok.
Bah, de toute façon, pour
Oui.
moi, Superman et le Père Noël, pour moi, sont voisins. Hein. Ils vivent tous les deux au pôle Nord. Hein, donc,
Et puis il y a cette fameuse couverture très connue de Superman qui essaie de pousser un Père Noël assez bedonnant dans une cheminée.
Oui, eh ben,
Où il y a...
c'est pas du tout la première histoire de Noël.
D'accord, oui, ou bien il y en a une où, je sais plus si c'est Superman ou Batman qui a une fausse barbe et
Les deux.
qui tient un sac. Oui, alors, oui, enfin, il y en a plein. D'ailleurs, généralement, quand à Noël, quand on a des sites ou des blogs et que sur les pages des réseaux sociaux, on veut souhaiter un joyeux Noël, c'est constamment des vieilles images de Batman ou de Superman à Noël qu'on utilise pour
Ouais,
illustrer notre propos.
alors que c'est triste, on pourrait utiliser une image beaucoup plus récente de Batman justement avec une barbe et un jetpack et qui essaye en fait de faire la nique à Superman en fait.
Ah, je vois pas celui-là. Je...
C'est un. Alors j'ai plus la référence en tête, mais l'histoire s'appelait Yes, Tyrone, Jerry, c'est Santa Claus.
D'accord.
Et en fait, oui, c'est un peu Superman qui en fait justement distribuait des cadeaux je crois pour le compte du Daily Planet. Je l'avais fait il y a quelques années donc je fais ça vraiment de va dire de tête, et en fait,
Oui, tu fais ça de tête, oui.
c'est ça, et donc en fait, Superman se déguise tout de rouge, et il se balade avec un gros traîneau au-dessus de sa tête, et en fait, il croise Batman, en fait, en jetpack, en fait, qui tombe à côté de lui, qui lui fait « Mec, t'es pathétique, je veux dire, regarde, regarde ce que tu fais, et tout ça, et voilà. » Et donc du coup Superman en fait se dit bon d'accord allez j'arrête c'est vrai je devrais plutôt aller faire des choses un peu plus sérieuses aller sauver le monde et tout ça et en fait Superman si tu veux donc il s'en va mais ah il sait il a quand même ça le prend un petit peu au trip quand même il veut y retourner. Et donc il retourne quand même à l'endroit où il était censé aller. Et en fait, il découvre justement Batman, en fait, qui s'est créé justement lui aussi un bas de costume de Noël et qui en fait distribue des cadeaux à sa place. Et ça se finit avec justement Superman en fait qui frappe Batman parce que c'est un truc dégueulasse.
D'accord.
Et il y a un tout petit truc en fait qui est hyper méta à la toute fin, c'est-à-dire que justement sur la dernière page et sur celle en fait de ce gros coup de poing, il y a un gros logo Elseworld marqué en gros en fait.
D'accord,
Mais du coup, tu peux avoir justement, t'as une case que j'aime beaucoup justement, tu vois Batman avec le bonnet, la barbe et tout ça et qui fait un clin d'œil et voilà.
ouais. C'est très, ouais, ça fait très années 50. Superman qui, à la fin de la série TV des années 50, faisait des clins d'œil, ce genre de choses.
C'est ça. Alors
On est un peu dans ce style-là, ouais.
j'ai retrouvé le numéro, ça date de 2006 et ça s'appelait Infinite Holiday Special.
D'accord. Ok. Alors, par contre, tu disais que chez DC, dès les années 40, on a le Père Noël.
Oui.
Chez Marvel, dans les années 50, on a parlé de Noël, mais du vrai Noël, puisqu'on avait quand même un magazine dédié à la Bible.
Oui, oui,
Chez,
oui,
alors à ce
oui.
moment-là, c'était Atlas, où on avait, il y avait donc la scène de la nativité qui était reprise par Joe Sinnott, un nom qu'on connaît si on s'intéresse au Marvel des années 50-60. Hein. Faut pas oublier que Marvel comme DC ont un peu fait de la BD biblique, mais à
Oui.
destination de la jeunesse, pour se donner un peu une image de regarder, nous aussi on fait des choses respectables, quoi. Hein. Ça, tous les éditeurs l'ont fait en fait.
C'est ça, oui. C'était comme ça à l'époque, tout simplement.
Oui,
Voilà, c'était pour être respectable.
voilà, ça manque un peu de coup de poing quand même, comme comics, je trouve, mais bon.
Oui. Voilà. Mais en tout cas, bah voilà, je pense qu'on a un peu fini tout simplement notre discussion de tout ce qu'on pouvait tirer de cet épisode.
Oui, je pense,
Voilà.
ouais.
Et donc bah on va devoir se dire au revoir. Mais eh bien avant ça, si jamais tu veux éventuellement bah écoute, t'as un deuxième essai si tu veux redire des choses et faire ta pub, vas-y.
Oui, bah alors, comme je l'ai déjà dit, hein, nous, on est Comics Office, un site où on fait principalement du podcast. Il y a un peu aussi les articles, mais nous, c'est vraiment les émissions, notre fonds de commerce. Vous pouvez nous trouver là, au moment où est diffusé ce segment du calendrier de l'Avent. Je pense que l'ensemble de mes différents épisodes consacrés à Red Son et à la guerre froide a été diffusé.
Ah bah
Sans doute
j'espère parce que
que.
moi je les attends.
Ah bah le c'est en cours là. Là, au moment où on enregistre, on est à la moitié de la diffusion, donc d'ici que cette émission sortira, ce sera terminé. Et vu qu'en ce moment je travaille sur le montage de la seconde émission Comics Run, vous aurez aussi là, incessamment sous peu, la deuxième partie de notre lecture et notre analyse des épisodes de Spider-Man de la période Brand New Day.
D'accord.
D'ailleurs, on devrait, je pense qu'en tout, on devra en faire, sans doute qu'il y en aura encore deux pour terminer cette grosse période.
D'accord.
D'ailleurs, je découvre Brand New Day parce que je suis avec Benny qui, lui, avait déjà lu et relit. Et moi, je découvre et c'est assez marrant de confronter deux
Oui,
regards différents, du coup, quoi. Entre
oui.
quelqu'un qui a un regard neuf comme moi et tout en ayant vécu à l'époque tout le backlash qu'il y a eu sur la période, et Benny qui, lui, bah, du coup, remet pas mal d'eau dans son vin, ça donne des discussions où tous les deux, on trouve un bon plaisir à comparer nos avis.
D'accord. Bah écoute, tant mieux. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode du calendrier de l'Avent. On espère qu'il vous a plu et tout ça. Et bien moi, on se retrouve demain avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Voilà. Salut!
Salut tout le monde, bonne fête à vous!
Quand tu descends.